Avis à tous, cet épisode a été enregistré le 12 février 2017, quelques jours avant l'annonce de l'ajout de 3 nouveaux acteurs à Star Trek Discovery. Donc, pour le bien de votre information, voici les noms qui se sont joints à l'équipe de Star Trek Discovery cette semaine. Donc, on commence avec Malik Panochly, qui est connu principalement pour le rôle de 30 Rock et Weeds, qui jouera le docteur Nambu sur le USS Shenzhou. Il sera le chef, l'officier médical en chef, pardon. Sa présence à Toronto a été connue au travers de Twitter et donc se joindra à l'équipe. Par la suite, nous avons Terry Serpico, qui jouera l'amiral Anderson, un haut ranké de Starfleet. Serpico est connu principalement pour Rescue Me, Army Wives et Sneaky Pete. Donc, on parle ici d'un acteur qui a une longue liste de crédits derrière lui. Et se joint tout finalement Sam Vartolemos, qui jouera l'enseigne Connor, un officier junior qui lui aussi a signé au USS Shenzhou. Il a récemment apparu dans The Following et dans The Secret Life of Walter Mitty. Donc, plus d'informations la semaine prochaine. Et maintenant, place à votre programmation régulière. Tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Parlons Trek. En effet, cette semaine, ce week-end a vu un post très viral et on fait un petit segment spécial là-dessus parce qu'en effet, il y a un certain Andrew McKay de Toronto qui a pris une photo sur ce qu'il dit avoir été le plateau de Star Trek, et il dit, en disant, « Haha, je hang out avec mes nouveaux amis Klingons. » Le post a été extrêmement viral, mais en fait...
Dans l'univers de Star Trek.
Dans l'univers de Star Trek. Et évidemment, ça a mis beaucoup de monde en mode panique, parce que ce n'était pas des Klingons tels qu'on était habitués de le voir.
Voyons là, tant que ça, je veux dire, honnêtement, si on prend les Klingons de TOS puis les Klingons de direct du deuxième film original,
premier film original, en fait, Pierre.
Non, ils ressemblaient encore pas mal au sud du premier.
Deuxième film de Star Trek, Pierre. Ah, ok, tu parles des Jevin et J.J. Abrams, là.
Non, moi je parle, je peux dire qu'ils ont,
Laisse-moi mettre mon pied de Trekkie ultime.
Le deuxième, c'est avec Khan?
Le deuxième, c'est avec Khan. Ouais, le premier, c'est The Motion Picture, et c'est là qu'on voit pour la première fois les Klingons avec les
facial ridge.
Facial ridge, en effet. Okay. Cranial, en fait, le terme est cranial ridges. Ouais. Mais ça ressemblait... je vous invite à... Je vais mettre la photo sur le Facebook. Je vais vous laisser juger. La photo est pas très détaillée. Et on sait pas si c'est du make-up. On sait même pas si c'est des vrais Klingons.
Y a-t-il une perruque qui va se mettre par-dessus ça? Ou c'est vraiment leur tête?
Donc, premièrement, j'aimerais avoir vos avis à chaud sur cette fameuse image. On va commencer par Pierre.
Ben écoute, moi comme j'avais commencé à dire, les Klingons ont tellement changé souvent d'image visuelle entre la série originale puis les films, entre d'un film à l'autre, des fois, on avait plus de détails, on voyait des costumes mieux faits. Ouais. Après ça, quand c'est tombé sur le J.J. Abrams Universe, on a vu des Klingons beaucoup plus, je vais dire, carrément tatoué, plus punk.
Ouais.
Fait que de voir ces Klingons-là, moi, comme ça, je veux dire, si on m'aurait dit que ce serait la nouvelle image des Klingons, j'aurais dit, OK. So fine, ouais, yes. Déjà qu'il y a des Cranial Ridge, comme tu dis, je trouve ça déjà plus cool, même si je sais que dans Enterprise, on a bien vu pourquoi il y en avait pas. Fait que non, moi, ça m'aurait pas dérangé.
Bon. Et Marc?
Ben moi, de ce que je trouve, c'est que ça a plus l'air à des reptiles que des Klingons. Alors, j'ai de la misère à croire que ça peut être des Klingons, mais on sait pas, comme on dit, c'est peut-être la moitié du costume, puis c'est peut-être une perruque qui va se mettre par-dessus. Tu sais, on les voit de loin, la photo est pas de la meilleure qualité qui existe.
Ouais.
Ça peut être n'importe quoi, ça peut être même le tournage d'une autre affaire.
Ouais, parce qu'on sait qu'à Toronto, Toronto, c'est pas mal le nouveau Vancouver. Il y a beaucoup de trucs de sci-fi qui se sont filmés là-bas. Je pense à The Expanse, t'as The Magicians, t'as Killjoys. Je suis pas sûr si Dark Matter était filmé là aussi. Sci-Fi filme beaucoup d'affaires là-bas. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment dans le milieu artistique là-bas va en voir des bébés.
Puis quelqu'un qui est capable de dire, gars, je suis sur le tournage d'un film, puis il va dire, je vais profiter du fait de Discovery, puis je vais dire, ouais. Oh, c'est des Klingons.
Ouais. Moi, en tant que journaliste d'investigation que je suis, j'ai pris la peine d'essayer de rejoindre Monsieur Andrew McKay. Écoute, j'ai pas eu une réponse super détaillée. Tout ce que, en fait, je lui ai simplement demandé de confirmer ou d'infirmer le fait que c'était des vrais Klingons. Et il m'a dit non, je fais juste penser que ça ressemble quasiment à ça. Fait que selon ce qu'il dit, encore là on peut.
Ben, c'est peut une douter. Interprétation qu'il fait là.
On peut.
Ben, c'est une interprétation de la J.J. Abrams. Je suis pas sûr que ça va être ça, tu sais. Mais ça se peut que ça le soit.
Ça se peut que ça soit pas. On a vu sur Twitter aussi le chien de Nicholas Meyer qui a son propre compte Twitter. A dit en réponse à la nouvelle « Well, I guess that's one less extra. » Donc, c'est un extra de moins qui travaille sur ça. Mais est-ce que ça peut être de la misdirection? Est-ce que ce gars-là travaille vraiment là? On le sait pas. Le fait est que, simplement, on le sait pas. Et c'est ça que... Comme vous le savez, Marc, Pierre, moi, j'aime ça aller m'imbiber de larmes de Trekkies en ligne et j'ai été voir les commentaires et évidemment c'était exactement à quoi je m'attendais, c'est le monde qui se dit non, ça devrait pas être ça et je remarque un triste manque d'ouverture d'esprit parce qu'en fait si en effet ce sont des Klingons, il y a peut-être une raison pour laquelle ils ressemblent à ça. C'est peut-être on a vu des images d'art conceptuel. Je sais pas comment dire ça, du concept art en français, mais on va dire de l'art conceptuel.
C'est une bonne traduction.
D'un vaisseau qui fait très, très gothique, comme Pierre me disait, ça ressemblait à un vaisseau sorti de Warhammer 40 000, qui était supposément un vaisseau Klingon sarcophage.
En même temps, on s'entend que c'est une image de design, là, c'est du character art, là, c'est même pas, c'est juste des idées qui sont sur papier pour voir est-ce que on s'en va dans la bonne direction. Il donne ça au directeur, au producteur, whatever. Puis, ok, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille dans cette direction-là ou vous voulez qu'on s'en aille dans une autre direction?
Ouais.
C'est généralement ça. Je veux dire, Ralph McQuarrie en a fait des milliers pour Star Wars.
Ouais.
Il y en a eu gros qui ont été refusés. Star Trek aussi, etc. Tu sais, il y a eu plein de, ça a été fait pour tous les styles, à toutes les sources pour tous les types de films. Fait que.
Moi, tu vois, moi, en moins de 2 minutes, j'étais capable de venir avec une une idée de scénario qui joint le fait que c'est un vaisseau Klingon sarcophage avec des Klingons qui ressemblent pas tout à fait des Klingons, puis de venir avec une idée de scénario pour les intégrer en tant que Klingon. Fait que si moi je suis capable de venir ça en dedans, de venir avec une idée de scénario en dedans de 2 minutes pour expliquer le fait qu'il ressemble à ça, je pense qu'il y a des producteurs puis des scriptwriters qui travaillent là-dessus depuis 1 an. Je pense qu'on peut bien leur laisser une chance, là. Parce que, regarde, c'est pas compliqué, là. Les Klingons qui sont affectés par le virus génétique ont retrouvé des Klingons ancestraux dans un vaisseau hyper-sommeil, parce qu'il y avait des Klingons ancestraux pour essayer de leur donner, redonner leurs attributs physiques. Puis, et voilà, c'est fait. Regarde, là, c'est pas compliqué, ça. Puis ça pourrait aussi expliquer justement le fait qu'ils cherchent à réunir les factions de Klingons pour... parce qu'on sait que le personnage de Chris Obi est supposé être un Klingon leader qui veut rassembler les grandes maisons Klingon. Donc ça peut être quelque chose qui est derrière ça. Fait qu'on le sait pas. En même temps, c'est quand même... c'est quand même le fun de théoriser, je pense, ici. Ça fait partie de ce qu'on fait, nous, puis je pense que c'est ce que les fans de Star Trek aiment faire. Mais en même temps, je veux juste... Il y a un petit blâme de la part de CBS à ce niveau-là. Simplement sur le fait que si il n'aurait pas annoncé la série trop longtemps d'avance, on n'en serait pas rendu avec des fans de Star Trek qui... sont avides d'informations parce que ça fait un an que c'est annoncé?
À peu près
un an. D'habitude, une série télé, quand c'est annoncé, là, 6 mois, 9 mois, en dehors d'un an, généralement, là. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est ça, c'est que le monde veut quelque chose, puis CBS, pas mal, voilà, encore, je veux leur faire confiance, mais en même temps, faut le dire que je pense qu'ils
l'ont. CBS annoncé. Veut les garder en haleine, mais pas pour qu'ils cherchent à, comme des fous, à avoir trop d'informations.
Ça. Mais l'affaire, c'est des Trekkies, c'est ça, ça va chercher. Ça va
des Trekkies, des fans de sci-fi, là, je veux dire, les fans de Star Wars, là, écument Internet pour avoir des informations sur le prochain film, là. Puis ça, mettons, le monde qui trippe sur The Expanse, cherche à avoir toute l'information possible pour avoir les prochains épisodes, tu sais.
The Expanse, c'est pas compliqué, eux autres, ils ont juste à lire les livres.
Ouais, non, mais tu sais, je donne des exemples, là, tu sais. Le monde, on est ainsi fait, là, on veut savoir c'est quoi la suite, c'est tout, là. Puis l'âge de l'Internet nous donne accès à tellement de données qu'on va tout faire pour essayer de l'avoir.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un peu bébé gâté? Pas nous, peut-être, soit nous, soit les Trekkies sur Internet sont. Est-ce qu'on est gâté par. Est-ce qu'on se plaint le ventre plein?
Moi, je trouve pas. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une série vraiment, à part les 3 films mais que Paramount a produit, c'est pas CBS. On n'a rien à se mettre sur la dent à part écouter ce qu'on avait ou les films fans. Alors, moi, j'aurais hâte, mais. Je suis pas en train de paniquer de ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ce qui va arriver dans l'émission. Je veux pas interpréter.
Ouais.
Tu sais, j'ai fait la même chose avec Star Wars, là. Je suis seul qui est pratiquement, qui est pas allé voir les trailers. J'ai rien regardé. J'ai même pas vu les pubs de la Rogue. Ouais. Pour être sûr de rien, de voir de ce qui se passait. Alors, j'ai été content de voir le film.
Bon.
Moi, par rapport à ça, regarde. J'ai très hâte d'en savoir plus, mais j'attends, c'est tout. Je veux dire, je leur donne le temps de faire faire quelque chose de bon. J'ai vu 1000 fois pour un paquet d'affaires que s'ils se grouillent trop, ils vont sortir quelque chose de bâclé. Fait que prenez le temps de faire quelque chose comme du monde, puis quand vous allez nous servir, ben on va avoir faim, puis on va manger, puis c'est point barre ça.
Mais écoutez, Pierre, Marc, je suis un peu déçu. On est un petit peu trop level-headed. On est un petit peu trop raisonnable présentement.
Il est pas assez là pour être pas raisonnable.
Non!
C'est une petite photo!
Ah, Écoute, gars, je vais te dire de quoi par exemple, OK? En tant que fan de Ghostbusters, je sais qu'il y a eu énormément de monde qui quand que les premières images du nouveau Ghostbusters sont arrivées, qui partaient en fou, ah non, ça va être mauvais, etc. Pas un Ghostbusters avec des filles. Puis, au final, qu'est-ce que ça l'a donné? Zéro pimba, parce que le film, ben, il est correct. OK, il est pas fantasmagorique comme pas l'original, mais... Est-ce que les nouveaux Star Wars sont aussi bons que les originaux? Est-ce que les nouveaux Star Trek sont aussi bons que les nouveaux originaux? Ben, non, tu sais, c'est tout. Je veux dire, on a ce qu'on a, puis ça finit là.
Ouais, enfin, avec les Ghostbusters, j'ai découvert que Kate McKinnon était drôle, puis c'était une bonne actrice. Ben, en fait, ça, selon moi, le film tient sur ses épaules. Récemment, là, mais Melissa McCarthy aussi, là.
Ouais. Non, ces deux-là, là, c'est fort. La fille qui fait Patty, là aussi, là, j'ai trouvé excellente. C'est juste la petite, la brunette, là, petite Meg, là, que le film est censé être elle, la pink man du groupe. Tu sais, fuck it. Elle est pas intéressante pour deux scènes. En plus, fait, je veux dire...
Ce qui est drôle, Pierre, c'est que c'est la seule qui fait pas partie du cast de Saturday Night Live. C'est peut-être pour ça aussi, je sais pas.
On va essayer de prendre une vraie actrice pour faire ça, mais non.
T'es sérieux? Ah, je savais pas ça. Ben non, c'est la... C'est
explicite. Ben, Leslie Jones, Kate McKinnon, puis...
McCarthy.
Melissa McCarthy, les trois sont même présentement dans Saturday Night Live. L'autre, en tout cas, personnellement, elle ne dit rien dans Saturday Night Live. Là, mais...
Ouais, mais d'un autre point de vue, le gars qui faisait tort, là, qui était avec eux autres,
le père de Kirk,
Chris Hemsworth. Ouais,
Chris Hemsworth, il a pas fait Saturday Night Live, mais il est drôle en tabarnak. T'sais.
Ouais,
bon, c'est sûr que non, okay, on va vraiment trouver à quel point il est drôle en regardant les suppléments sur le DVD là, parce que son personnage en tant que tel, il est cave, vraiment trop cave. Ouais,
c'est ça qui est drôle.
Ouais, c'est drôle, mais tu sais, encore une fois dans ce film là, il y a des affaires qui sont over the top, mais bon, on est là pour parler de Star Trek.
Ah oui, c'est
là, Chris Hemsworth, il joue dans Star Trek.
Chris Hemsworth, il jouait un excellent père de Kirk, bon, c'est pas compliqué là, parce qu'elle n'avait jamais eu de père de Kirk avant.
Est-ce qu'il va être de retour dans le prochain?
On le sait pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais outre cela, ben écoute, on a pas reparlé ensemble. En fait, j'ai parlé tout seul du fameux teaser trailer qui est sorti. Je voudrais avoir vos impressions sur ce teaser-là qui est sorti là, il y a maintenant 2 semaines. Là. Quelle impression ça vous a laissé, Marc?
Ben, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des costumes, j'adore le nouvel uniforme. Ouais. Selon moi, ils font vraiment un milieu entre la fin de
Enterprise
puis ce qui est supposé arriver dans la série originale.
Okay.
Puis aussi, ils vont sûrement faire du rebranding de vaisseau pour le mettre plus à la mode. Si tu restes un vaisseau carré comme des années 60, c'est probablement pas super beau. Là. Ils vont mettre peut-être beaucoup plus de fioritures autour. Ouais. Ils vont rajouter des affaires. La technologie maintenant permet de pouvoir faire des affaires. Le CGI va aider pas mal. Là.
Ouais.
On verra pas des fondus vers vers le bridge comme on voyait dans la série originale.
Pierre, et toi, quelle impression ça t'a laissé?
Ben moi, ça m'a donné une impression à peu près du même style que la première fois que j'ai vu les nouveaux films de J.J. Abrams. Ils font vraiment un lien entre Enterprise puis la série originale. Ils essaient vraiment de combler le gap. Puis l'uniforme, il est beau. En tout cas, ce qu'on a vu, l'uniforme est beau. À l'intérieur de... Ouais, c'est ça. Le ship, le graphisme, le vaisseau qui sort d'un astéroïde. Ça me donnait presque l'impression que le ship est pas autorisé, mais pas du tout. Là, on dirait c'est un Starship Rogue, là, où c'est genre un peu comme le Defiant, là. Il y a un cloaking device, puis il est pas censé, là. Fait que ça va... J'ai aucune idée où ce que ça s'en va, mais c'est un beau teaser. C'est un beau teaser, c'est intéressant. Puis en plus, ils ont été cherchés dans la vibe émotionnelle des Trekkies. Rappelez-vous comment que c'était dans le temps. Ben, on retourne vers cette direction-là, vers l'expansionnisme, vers l'inconnu, tu sais.
Ouais. Bon, ben écoute.
Puis ils nous aident aussi à nous poser des questions, juste le petit bout, tout ce qu'ils ont le casque sur la tête, juste le dos. Ça va être quoi, ce casque-là?
C'est quoi, ça, on ne sait pas, là.
On a hâte, là. Ça donne la fibre du Trekkies, là, d'écouter l'émission.
En fait, moi, c'est drôle parce que c'est le ça continue. Parce que, en fait, si on regardait l'espèce de petit truc 360 degrés qu'on a vu une couple de semaines, on combine ça avec. Ce qu'on a vu avec l'intro du teaser qu'on a vu, ça fait on voit vraiment que CBS veut dire aux fans de Star Trek ça continue, c'est dans le même, ils veulent vraiment confirmer aux fans que c'est dans la même continuité, parce qu'ils se gênent pas à montrer des photos de DS9, Enterprise, Next Generation. C'est beaucoup de photos de behind the scenes. Puis ils mentionnent le Star Trek is, trois petits points. Ça, c'est, en fait, pour votre information, c'est le 11 mars 1964, Gene Roddenberry a écrit sur sa dactylo Star Trek is, trois petits points, une série de télévision dramatique d'une heure. Action, aventure, science-fiction. Le premier concept avec un contrôle fort des personnages principaux et plusieurs acteurs réguliers. Il liste cinq scénarios possibles pour un premier épisode. Et on voit ici The Next Cage, The Day Charlie Became God, donc Charlie X, President Capone, qui est devenu l'épisode de...
Je ne sais plus le nom, mais je sais que l'histoire, ouais. Justement...
ouais, c'est ça, bon, ex Paco
avec Capone, tout ça.
Et le fils Bin, The Women! Mais c'est ça, donc je vous invite à aller voir, chercher simplement Star Trek Is, trop petit point, vous allez voir ce à quoi ça fait référence. Mais encore là, c'est ça. C'est vraiment CBS qui dit, qui essaye de faire passer le message de Star Trek, c'est vraiment nous. Oubliez ce que vous avez vu de Paramount. On revient à la vraie, au vrai Star Trek. Là, j'avais une question pour vous deux. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, parce que les fans de Star Trek, on voit, c'est inquiet, ça s'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez d'un reboot visuel? Donc, dans le sens que l'histoire elle-même n'est pas touchée, mais que justement le production design soit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus actualisé. Admettons, justement, on regarde les communicateurs dans The Cage, c'était gros, puis c'était semi-transparent, des circuits au travers de tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, si ils ignorent ça, ou ils font vraiment un revamp visuel de... je sais pas, en tout cas, vous voyez ce que je veux
dire? De technologie.
De technologie, c'est ça, mais qui n'affecte pas l'histoire.
Ben, s'ils changent la technologie qu'ils peuvent faire, c'est sûr que ça me dérange pas. C'est sûr qu'à l'époque, ils ont fait quelque chose. Selon moi, ils s'adaptent, parce qu'à l'époque, dans les années 60, quand ils ont fait l'équipement, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout l'équipement qu'il y a. Présentement, on les a. Ça serait con de faire un appareil qui ressemble à ce qu'il y avait dans nos années. Faut pas penser dans les 20 dernières années, tout ce qui a changé. Je me rappelle, moi, mon premier cellulaire qui était presque mon avant-bras. Puis maintenant, c'est rendu une petite affaire. Puis c'est pratiquement plus puissant que bien des ordinateurs d'il y a 10 ans.
Ouais.
Alors, tu sais, mon ordinateur est 10 fois plus puissant que ce qui a envoyé une navette spatiale dans l'espace en 69.
Ouais.
Ça a été sur la Lune. Alors, regarde. moi qui modifie puis qui s'adapte, j'ai aucun problème. sais, toutes les séries ont pratiquement un uniforme différent sur une centaine d'années. Puis même les trois... Si on enlève Enterprise puis TOS, les autres se sont croisés. Ils ont trois uniformes différents, puis même des différences en chaque année. Alors pourquoi pas une nouvelle série, un nouvel uniforme? Je m'en fous, moi, ça.
Pierre, toi?
Ben, un peu dans le même point de vue, qui change la technologie, qu'elle a l'air différente, me dérange très peu. Puis, pour une autre très très bonne raison, le monde qui ont écouté la série originale, il va avoir ceux qui l'ont vu dans le temps, ou qui ont vu les rediffusions, mais des gens récents. Moi, j'ai jamais vraiment écouté la série originale, puis elle ne m'intéresse, mais zéro puis une barre, là. La barrière graphique est horrible, là. Je regarde ça, non, je suis pas capable. La barrière graphique, la barrière, on va dire, générationnelle, me rebute à un point infini, là. J'essaie de regarder ça, puis je m'endors. C'est moche, visuellement. C'est le point de vue psychologique, de mon point de vue, a l'air, est pas du tout au niveau. Je veux dire, on a évolué depuis cette époque-là. Ouais. Tu sais, il y a des bouts que c'est des gros silences intenses, que, tu sais, supposément, c'est pour mettre une émotion dans la scène, puis on regarde ça, puis OK, là, c'est long, là, c'est, je veux dire, c'est beau agi, là, je veux
c'est,
dire...
C'est Shatner qui fait une pause dans sa phrase pour une tension dramatique.
Tu sais, à la fin des années 60, on devait peut-être trouver qu'il y avait une émotion, mais là, on a besoin de plus, là.
Ouais. C'est ça, tu sais, on parle, à cette époque-là, c'était un niveau théâtral, le théâtre n'a toujours fait que simuler une interprétation de ce qui se passe dans la réalité, mais maintenant, la télévision, les films se rapprochent beaucoup plus de la réalité et malheureusement aussi, ça va beaucoup trop vite. Là, ça, c'est mon point de vue. Là, mais bon, les choses vont quand même plus vite. T'sais. Fait que donc, si je donne un exemple, justement, les séries récentes, et quand je dis récentes, je parle de, mettons, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, ont un pace qui est vraiment parfait et... Bon, je parlerai pas de certains épisodes qui ont parfois des goûts douteux, mais bon, on va parler au niveau de pacing, de d'action, de situation, tu sais, de réaction des gens. On n'est pas en théâtral, même Next Generation, les saisons à partir de la troisième saison, il y avait un pace qui avait du bon sens. Les deux premières saisons, c'était un petit peu trop théâtral, mais bon, c'est ça là. C'est pour ça que la série originale, le monde qu'ils ont vu, pas tant que ça. Ce qu'ils ont vu, c'est les films. Les films, à part le premier, ils sont tous très très bien cotés. Ils ont tous un bon pacing. Les choses se passent bien. C'est pas Star Trek 5. Quoi Star Trek 5? Il y a de l'action, Colin.
Ça reste le pire des films originaux.
Ouais, mais il y a un assaut dans une place avec des coups de phaser. Je veux dire, ils sont là à loader leur gun avec des chargeurs, puis ils disent « Go, man! » Je trouve ça une stupidité d'assaut.
Toi, ça va te chercher, toi.
Ben, ça va me chercher. Je veux dire, écoute, ce que je veux dire, c'est que c'est une situation que t'as jamais vue dans aucun autre Star Trek, à part par après, là, bien entendu. Je veux dire, surtout dans Enterprise, qu'il y a des unités d'assaut, puis le Mako, toutes les quêtes, là, mais je veux dire, dans le Star Trek série originale puis Next Generation, t'avais jamais vu ça. Écoute, avant que tu vois une guerre pour de vrai dans Deep Space Nine, t'avais presque jamais vu de vraies grosses guerres, à part en Enterprise. Mais dans Deep Space Nine, je m'excuse, mais tu vois le monde se fait tirer, pis t'as l'impression de voir que c'est le D-Day, là, tu sais, c'est le débarquement de l'Normandie, là. Pis ça varge, là, pis ça shot, etc. Pis le monde se fait désintégrer ou mange des coups qui les laisse complètement brûler en souffrance. Je veux dire, t'avais jamais vu ça dans le temps de TOS. Puis je veux dire, c'est ça qui montre que TOS est peut-être une barrière un peu trop lointaine et que ça vaut pas la peine nécessairement d'y rendre hommage tant que ça, parce que le monde l'a oublié. Le monde se souvient de Enterprise parce que c'est récent. Le monde va se souvenir des films. Puis dans les films, la technologie a l'air déjà beaucoup plus avancée que dans TOS. Oui. Le monde va se souvenir des films. Puis surtout, le monde va se souvenir des nouveaux films de J.J. Abrams, puisque la technologie est très différente. Fait qu'ils n'auront pas le choix de faire quelque chose entre ces affaires-là. Puis moi, je me dis, ben oui, ça va être correct. qui est... Allez-y, imaginez. Star Trek est censé être l'imagination mise sur chose, là. On est, c'est pas comme les fans de Star Wars qui veulent absolument avoir les mêmes affaires que d'un film original. On veut que ça évolue.
Ouais, mais en fait, Star Wars aussi, Star Wars, c'était pas, c'était dans un autre univers, c'est, puis il se basait, tu sais, c'est juste sans dire que la technologie était déjà un peu plus,
c'était beaucoup plus évolué.
Puis il y avait plus de budget aussi, comparé aux boîtes de carton de la série originale de Star Trek.
Malgré ouais. qu'il n'y a pas eu un grand budget pour un nouvel espoir, là, mais...
mais non, mais il a quand même révolutionné le domaine des effets spéciaux.
Oui.
En fait, on peut dire que Star Trek a révolutionné la vraie technologie de nos jours. En tout cas, a inspiré beaucoup de technologies de nos jours. Parce que Star Wars a révolutionné le cinéma des effets spéciaux. Fait que chacun a fait son effort pour le bien de l'humanité.
Ben même à l'époque, Star Trek avait réussi à révolutionner les effets spéciaux sous beaucoup de points de vue. Là. Ouais. Il réussissait à faire des choses que personne n'avait jamais imaginées. Autant la série originale que Deep Space Nine, pas Deep Space Nine, mais je veux dire que TOS puis que les premiers films, il faisait des choses qu'il avait pratiquement jamais été vues à l'écran. Puis le monde regardait, puis « What the fuck? »
Ce qui nous a permis de voir justement la grande guerre dans DS9, c'est justement la transition vers le digital. Donc en fait tu vois dans Deep Space Nine on a eu la transition vers le digital en fait dans DS9 et Voyager et dans Enterprise on a eu la transition vers le HD et peut-être avec Star Trek Discovery on va avoir le 4K, on sait pas, ce serait peut-être intéressant. Ouais, ça va, du moins probable, ce que j'ai l'impression c'est que ça va
très probable.
Ce que j'ai l'impression de faire, c'est comme en fait dans Enterprise, les deux premières saisons étaient filmées en HD, mais étaient diffusées en résolution régulière.
En analogique.
En analogique. Fait que j'imagine que ça va être pareil. Donc probablement que ça va être. J'imagine qu'ils vont quand même filmer en 4K. Parce que c'est quand même. J'aurais pas rendu standard, mais quasiment dans le domaine du cinéma. Surtout
oui, c'est pas mal le standard maintenant.
Fait que puis ça, ensuite tu downsize, puis c'est sûr que faire du rendu en HD versus le 4K, ils vont probablement pas faire du rendu en 4K pour les effets spéciaux, mais au moins ils vont l'avoir.
Ils vont le mettre le 1080p ou peut-être du i pour la diffusion TV présentement.
Mais... Ouais. On verra ça. Donc,
ben, la diffusion TV régulière, c'est du 720p. Puis le 1080p n'est disponible que sur... Ben, 1090i, i ou p, whatever. Le vrai HD n'est pas disponible que non, sur... n'est disponible que sur... Ouais. C'est ça, il est disponible seulement sur certains postes, là. Tu sais, c'est...
Ouais. Sauf sur un bon vieux Blu-ray.
Ouais.
Format physique. Vieux.
Dépendant vieux. Du terminal aussi.
Ouais.
Blu-ray, c'est facteurs. Super récent. Tu dis ça, c'est vieux. En tout cas.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses sur Discovery qu'on... Ben, écoute, je pense qu'on a... Moi, personnellement, j'ai vanté mon sac. J'avais besoin de m'exprimer. Que c'est drôle parce que, bon, Monsieur McKay est devenu viral, mais moi-même, je suis légèrement devenu viral un petit
avec
peu.
Avec ta réponse.
Avec la réponse que j'ai donnée. Fait que j'ai participé à la communauté dans ça.
T'aurais dû plus te vanter, parlons très, qu'en l'écrivant dessus.
Ouais.
Malheureusement, j'ai fait ça vite, un screenshot de cellulaire posté pendant que j'avais un petit peu de Wi-Fi.
Ah.
Mais malheureusement.
Mais c'est pas grave, t'es viral.
Ah, écoute, maintenant on va essayer de faire ça avec l'émission dans un futur proche. Outre cela, il y avait un petit quelque chose sur lequel je voulais te parler avec notre auditoire. Il y a un article qui est sorti récemment qui expliquait justement pourquoi on ne serait probablement pas en mesure, parce qu'on parlait de HD tout à l'heure, pourquoi on ne serait pas en mesure d'avoir Deep Space Nine et Voyager en haute résolution, comme on a pu l'avoir pour Next Generation. En fait, la réponse est simple et compliquée en même temps. La réponse simple, c'est le remaster de Next Generation n'a pas redonné assez versus l'investissement. Parce que, bon, je pense que les fans de Star Trek sont des gens qui sont en train... On va se vanter un petit peu. On est quand même un petit peu en avant de la courbe au niveau technologique. Donc, nous, les formats physiques, c'est...
Mais je le vois mais beaucoup. Passé. Mais je le vois beaucoup quand on est sur nos sites de Trekkies. Là, ouais. Si je vois sur Star Trek French Club ou ce que je vois le monde qui demande aux autres. Voulez-vous avoir ma collection DVD? Ouais. Moi, je m'en débarrasse.
C'est ça.
Ça arrive, c'est ouais. Fréquemment tous les jours.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que les gens sont de plus en plus en streaming. Fait que ça, c'est une des affaires. Deuxième chose, les coffrets, quand ils sont sortis, quand ils sont ressortis en HD, les coffrets étaient chers, là. Ils étaient 80, quasiment une centaine de dollars.
Puis, comme je travaillais justement dans une boutique où ce qu'ils en vendaient, la quantité qu'on vendait pas, puis que le fournisseur nous redemandait de le réenvoyer, c'était fréquent, là.
Ouais. Donc ça, c'est probablement
Il va bien falloir qu'ils finissent par s'allumer que l'époque de faire une fortune en revendant les DVD, ou des formats physiques est révolue, là. On sait que faire un DVD ou même un Blu-ray, ça coûte des peanuts. C'est rien.
En fait,
la plus grosse dépense est même pas dans le produit qui est sur le DVD. Il est pas sur le DVD. Il est sa fucking pochette. Puis la pochette, là, on s'en colistérine. Vous pourriez mettre ça sur des pochettes à CD qu'on trouve au Dolorama. Avec une image qui serait vraiment full ordinaire, tant qu'on sait que le contenu en dedans il est correct, baissez vos coûts, puis vendez-nous ça cheap, puis vous allez en vendre en quantité fucking industrielle. That's it, that's all.
Sauf que là, je vais faire mon avocat du diable. Dans le cas spécifique du remaster, en fait même du remaster de la série originale, mais spécifiquement, on va parler du remaster de Next Generation, il y a des millions de dollars sont allés dans la restauration. Tu vois, Pierre, ton argument est valide dans l'optique où ce que c'est, mettons, dans les DVD de Deep Space Nine, qui ont ressorti, qui c'est vraiment juste, ils ont repris exactement les DVD qui avaient sorti il y a 10 ans, en 2003, c'est ça.
14-15 ans, hein?
C'est ça. Puis, ils ont juste remis dans une nouvelle boîte, puis ils ont chipé ça. Pour moins cher, donc une centaine d'euros pour les 7 saisons. Ça, Pierre, ton argument est 100% valide. Je veux pas te contredire là-dessus. Cependant, au niveau des... Star Trek Next Generation, il a fallu qu'il fasse un travail de moine pour... parce qu'en fait, pour faire le remaster en HD, il a fallu qu'il scanne les pellicules originales. Bon, là, vous allez me dire, ben, c'est ça, il va juste les scanner puis les remettre en résolution.
Cette époque-là, c'était une autre technologie.
Exactement, parce que c'était filmé sur pellicule, mais c'était monté et les effets spéciaux étaient mis sur une résolution NSTC. C'est combien de lignes? C'est 300 quelques lignes?
C'est 320
par... Je me souviens. En fait, c'était édité et les effets spéciaux étaient rajoutés sur la bande magnétique qui, elle, était justement un STC, qui était le format télévisuel
En
Amérique du Nord. Donc, ce que les gens, ce que Michael Okuda, Denis Okuda et leur équipe ont fait, ils ont rescanné les négatifs originaux. Ils ont dû remonter les épisodes, faire le travail de l'éditeur, c'est-à-dire remonter chaque épisode à partir de la pellicule, faire le compositing pour les écrans verts, insérer les images, refaire les effets... En fait, ça, refaire les effets digitaux, comme un phaser, il fallait qu'ils refassent... Donc, c'était un travail de moine. Tu fais ça pour 26 épisodes pendant 7 saisons. C'est beaucoup de travail.
Ouais, mais ça vaut probablement la peine parce que dans le temps, justement, les effets spéciaux étaient ordinaires.
C'est ça, ça vaut la peine. Sauf que, malheureusement, le retour sur l'investissement n'est. En fait, oui, En fait, la chose étant que Next Generation, c'est un... c'est le bijou de CBS au niveau de Star Trek. Et je pense que c'est ceux-là qui jugeaient qui allait mieux...
mieux vendre.
Mieux vendre. C'est ça.
Probablement.
Donc, ouais. La chose étant aussi que... Ah, vas-y, Pierre, vas-y.
Mais parce que Deep Space Nine hein, était faite 10 ans plus tard.
Non, un petit peu moins. On va dire, il a commencé à la 5e saison de Next Generation. Mais
il a été fait en 90? Il a été fait dans les années 90?
Oui, dans les années... c'est 93 à 99.
Bon, c'est ça. C'est clairement pas la même technologie qui a été utilisée. Là.
En fait, ça a été transitoire. Dans les 2-3 premières saisons de Deep Space Nine, c'était des maquettes.
Mm-hmm.
À partir, je pense, de 4e, ils sont passés au digital. Sont passés. Et c'est là aussi, c'est une des raisons pour qu'on ne verra pas DS9 et Voyager, parce que justement, les effets digitaux, faudrait justement toutes les scènes de bataille, faudrait les recréer, faudrait les remonter. Oui, il y a des éléments qui. Des fichiers originaux des vaisseaux qui existent encore, mais il faudrait qu'ils upscale pour justement qu'ils paraissent bien sur des écrans de nos jours, parce que. À l'époque, en 97-98, un 3DS Max, puis je pense que c'est Maya qui disait, ou Lightwave, c'est Lightwave qui disait, c'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, les modèles 3D, ils n'étaient pas aussi détaillés, il y aurait beaucoup de travail à faire, et c'est bien se juger que ça ne... ça valait pas la peine, en tout cas pour l'instant.
C'est une question de coût.
C'est une question de coût. C'est vraiment.
Mais les DVD d'origine là, qui se vendaient, est-ce qu'ils sont encore disponibles?
Oui, c'est ça, les DVD, justement. C'est pour ça. Justement, c'est pour ça que CBS a repackagé DS9, Voyager et Enterprise en DVD. C'est pour genre pas que ça se perde. Mais
si honnêtement, entre tout pis moi, pis à boîte à bois, là, il aurait pu aussi tout simplement. Garder la même qualité digitale, les sacrer sur des Blu-ray pour que ça prenne moins de disques, ça fait des plus petites pochettes, ça va se vendre moins cher.
Ouais, mais parce que j'ai l'impression aussi. Ben, en fait.
Une saison par Blu-ray.
Oui, je peux comprendre ton point, mais en même temps, quelqu'un qui s'achète un Blu-ray s'attend à une qualité d'image supérieure.
Oui, mais. Faut voir les choses d'autre point de vue. Tu sais, je veux dire, en même temps, je suis d'accord que oui, tu t'attends à avoir une qualité d'image supérieure, mais écoute, il y a énormément de Blu-ray qui sont très décevants là-dessus, mais c'est justement là que tu fais ton prix. Si tu fais que c'est juste un port, puis tu le vends pas cher, ça va se vendre comme des petits pains chauds. C'est ça l'affaire. Le monde, eux autres pensent juste, on va vendre ça grand prix. Mais grand prix, là, on a toutes 12 hypothèques à payer, puis plein de choses à...
T'as combien de maisons, Pierre?
25, mais non. dans ma game de Sims, mais bon.
De toute façon, Pierre, on sait que t'es dans ton chalet à Québec, là.
Ouais, c'est ça.
Ah, ouais, ouais, c'est ça, mon chalet. Anyway, non, sérieusement... Ouais, dans le sous-sol de mon chalet. Honnêtement, c'est ça. On a tout l'argent est difficile à avoir pour tout le monde, à part une élite qui finalement sont belles. En tout cas, whatever. Là, je donnerai pas mon avis politique là. Mais bon, l'argent, c'est dur à avoir, c'est dur pour toi, c'est dur pour moi, c'est dur pour Marc, c'est dur pour tout le monde. Puis, je veux dire, on veut le dépenser intelligemment, puis je reviens à vendre ça pas cher, ça va bien se vendre, puis vous allez faire votre argent, mais juste par le nombre.
Ça vient d'un... C'est un message que vous était offert par un fan de Star Trek, Star Wars, Ghostbusters et Stargate. Donc, s'il vous plaît, laissez-lui la paix au niveau de son budget.
C'est JP. Santé et bien-être Canada, vous avez
à limiter vos fandoms parce que votre budget ne peut peut-être pas vous le permettre.
Alors, baissez votre prix.
Aïe, aïe. Ben, écoute, on va parler un peu de Star Wars quand même. J'ai fait des petits achats récemment. J'ai acheté des... les livres Star Wars Aftermath. Je sais pas si vous êtes familier, donc c'est des leaks.
C'est ce qui se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ouais, c'est ça. Selon la nouvelle continuité.
Selon Disney.
Ouais. Oh, mon Legend, tu me manques.
Ouais, mais il y avait beaucoup de merde là-dedans aussi. Hein.
Oui. Mais bon.
Comme dans tout, il y a de la merde.
Voilà.
Ouais, hein? Threshold.
Pas si mauvais que ça. Il est pas bon, mais il est pas si mauvais que ça.
Ouais, bon, il y a aussi l'épisode Haven de Next Generation, parce que...
Je l'ai écouté justement cette semaine.
Ouais. Puis l'autre, c'est-tu Haven ou c'est un autre, où est-ce que t'as Wesley Crusher qui te fait condamner à mort par...
Non, ça, c'est sur...
Angel One. Écoute, ça, c'est des autres, honnêtement, je ne suis pas capable de regarder.
C'est drôle de les voir tout le temps en train de courir et puis faire de l'amour un peu partout.
Mais ça, c'était Roddenberry qui était un petit peu trop obsédé par le sexe.
Ouais, mais ça, c'est vraiment un épisode monté pour lui, ça.
Oh, oui. Mais. Je vais faire un spécial. Je vais me sortir des post-it. Je vais sortir des extraits de 50 Year Mission où certaines personnes parlent de Roddenberry. Il y a des. Écoute, là, les notes qu'il pouvait laisser, genre disant j'ai besoin de plus. Il faut plus de sexe, je veux plus sexy. Ouais, avec l'âge, il
est devenu. Ben, c'est dommage qu'il n'a pas vécu pour voir. Pour voir Enterprise.
ouais, tu vois, ça, il aurait approuvé des scènes de décontamination.
C'est ça. Hey, les scènes, justement, ça, ces scènes-là, dans cette série-là, je me disais, d'où ça sort? Je veux dire, c'est quoi la série sur HBO ou quoi?
Laisse-moi t'expliquer. Ça sort de, parce qu'à l'époque, c'était sur le, c'était Enterprise, c'était du, c'est, avec, c'était, excuse-moi, je vais recommencer au début. Des trois séries de Star Trek, t'en as, des cinq séries, bientôt six de Star Trek, qui sont sortis, t'en as trois qui étaient vraiment contrôlés par des diffuseurs. La première qui était contrôlée par NBC. On connaît tous l'histoire de ça. Et Voyager et Enterprise étaient sur UPN. Les deux autres étaient produits directement par Paramount pour être vendus aux stations de télé individuelles. Donc, ce qui arrive, c'est que avec Voyager et Enterprise, UPN a dit « Ah ben, on veut aller chercher un public plus jeune. Mettez-nous des scènes sexy et puis... on veut que tu
sais. Il n'y a pas de scène sexy dans Voyager.
Ça veut dire que dans l'ensemble de son œuvre.
Oh, elle avait des grosses boobs, là, mais big deal. Là. Je disais, écoute, regarde, si tu veux une scène plus sexy, c'est de voir Janeway qui fait son Aliens. Là. Je sais plus comment il s'appelle cet épisode-là, mais elle fait carrément un Aliens. Là, elle se promène avec son fusil d'un Jeffrey Tube en camisole. Ben, t'sais, déjà, là, ça, c'est quasiment plus sexy. Jane, oui, je vais pas dire qu'elle est sexy. Non.
Jerry Ryan.
C'est correct.
Seven of Nine.
C'est correct, Marc. Oui. Tout doux, tout doux, tout doux.
Oui, je vais me calmer.
Mais en gros, c'est
un
ça.
Dedans.
C'est vraiment UPN qui voulait comme rehausser.
Augmenter en fait, l'audimat.
Ouais, c'est ça. Mais ça a pas marché. Mais c'est cela. Donc écoute, moi je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Pour ce petit spécial.
Youpi.
Ça fait quand même une bonne heure. Hein?
Ben, pas mal, là. Ben aussi, ben, pour ceux qui... Et aussi pour... On a deux entrevues que j'ai faites ce dimanche dernier. Une avec Marie-Rine Cosplay. Pour les membres du Star Trek Friendship, vous avez vu son cosplay de Captain Kirk sur leur groupe Facebook. Et donc, je me suis entretenu avec elle. C'est une bonne conversation. Et on a parlé de cosplay et de Star Trek. Donc, on va mettre ça dans le cours de la semaine. Probablement, je me dis peut-être dans le prochain épisode, le temps que... Et ensuite, ben, je me suis entretenu avec un certain Ferengi Dev. Donc, je vous avais parlé récemment d'une application pour Android qui s'appelait Rules of Acquisition. Donc, en fait, il s'avère que c'est
un français. J'ai pas encore téléchargé ça, moi.
En fait, le développeur est français. Donc, j'ai parlé avec lui aussi. Donc, ça va être à entendre bientôt dans un prochain épisode de Parlons Trek. Et sur ce, ben écoute, je veux remercier Pierre d'être venu nous rejoindre, même si ce n'est que virtuellement.
Non, ça me fait plaisir.
Surtout vous savez, avec l'investissement que tu as mis aujourd'hui.
Ah, écoute, j'ai vidé mes poches. Non, c'est plus que ça. C'est un DVD
de moins, là.
Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. Il y a un DVD que de moins dans mes poches, là, mais c'est pas grave. Ça va. Ah, ça me fait plaisir. Là. Ben, justement, je suis en train de télécharger le Rules of Acquisition.
Merci beaucoup, Marc, de ta présence.
Ça fait plaisir.
Avant que tu retournes dans ton Saguenay natal.
Oui, justement, j'ai acheté ma console aujourd'hui, alors on va pouvoir avoir une bonne qualité sonore encore de mon Saguenay natal.
Ça va être comme si tu étais à côté de moi.
Presque. Alors, je vais mettre une belle caméra juste pour que tu me vois mes beaux yeux.
Moi aussi, je viens juste de m'acheter une belle caméra, fait qu'on va pouvoir...
Quand tu vas être dans ta pièce éclairée.
Ouais, c'est ça, faudrait d'abord...
sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée sur les ondes de puissance maximale.
Et on vous remercie encore de faire partie de notre page Facebook et d'écouter notre rediffusion sur iTunes et Google Play.
iTunes, Google Play, Mixcloud. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir.
Et prospérité.
Et prospérité.
Et prospère. Open Klingon style. Klingon style. Kawan Rotan, Ikusaka Plajita. Yuhidatu, Chakale, Kuku, Kelvin, Pajamau, New Hostak, Nick, Pormak, Matmak, Shuku, Hamarush, College, Hines, Koplaje, Kuda Marush, Waja Pormak, Kupla. Klingon style. Klingon style. Oh, 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 oh. Open Klingon style. Klingon style. Oh, 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 oh. Open Klingon style. Style. Kupla!
Bond style.